Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Comme chaque dernier dimanche du mois, nous poursuivons notre périple dans l'évangile de Marc. Donc je vous invite à ouvrir l'évangile de Marc au chapitre 15, des versets 42. Marc 15, du verset 42 jusqu'au chapitre, et puis nous irons jusqu'au verset numéro 8. Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe, très tôt, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes. Mais elles ne le dirent rien à personne à cause de leur effroi. Et je vais laisser la place à notre pasteur Timothée Wenger qui va nous apporter la parole comme nous venons de le prier ce matin.
Bonjour à chacun. Avant de commencer, j'aimerais simplement dire, je suis tout à fait désolé, les petits papiers sont sur mon bureau. Donc désolé pour aussi les enfants plus particulièrement, vous pouvez essayer de prendre des notes, peut-être noter quelques mots-clés. Et puis pour nos chers amis qui sont aussi qui comprennent le russe, ben désolé, c'était aussi traduit. Mais voilà, vous allez pouvoir essayer de suivre aujourd'hui. Je n'ai pas le don des langues, donc je ne vais pas pouvoir vous parler en russe. Mais prions que l'Éternel utilise quand même sa parole pour nous guider ce matin. Hein, comme un barrage qui n'a aucune ouverture, ne laissera passer aucune eau. À part s'il déborde, mais s'il est très très haut. Bien, comme notre compréhension de la Bible aussi ne sera pas possible, si le Saint-Esprit ne peut pas passer, la vanne doit être ouverte. On pourrait dire la pierre doit être roulée, si vous voulez, pour que l'Esprit œuvre dans nos cœurs ce matin. C'est le dernier dimanche du mois, comme l'a dit Loïc, on continue dans l'Évangile selon Marc. Bon, en continuant, on se rend compte qu'on arrive bientôt au bout de cet Évangile. Et donc, nous allons nous imprégner de ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, ici. Ceux qui connaissent la Bible, bien, vous aurez des rappels. Je ne vais pas vous donner des choses nouvelles, mais je vais nous aider à saisir ce que la parole de Dieu nous dit ici, dans ce texte. Et pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas encore bien, eh bien, que ça puisse être aussi une manière de découvrir ce que Dieu nous donne. Dans l'étape de l'histoire dans laquelle nous sommes, donc c'est les évangiles, c'est l'histoire de Jésus, en fait, qui est venu sur terre, qui nous est expliquée. Et donc là, on a déjà parcouru avec lui tout un chemin. Nous sommes arrivés à Jérusalem. Il a été condamné à mort de manière injuste, hein, nous l'avons vu ensemble, et il a été mis en croix vers 9 heures du matin. Ensuite, il y a eu des moqueries, les gens se sont moqués de lui, et de midi jusqu'à 3 heures, c'était les ténèbres. Et ensuite, Jésus a jeté un grand cri et est mort, donc il y a eu quelques instants encore. Le voile du temple s'est déchiré, le centenier témoin de la mort a témoigné en disant « mais c'était vraiment le Fils de Dieu ». Des femmes parmi lesquelles se trouvaient Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques et Salomé, ont été témoins de sa mort. Et c'est là que nous arrivons dans le texte de Marc 15 au verset 42. Nous aurons donc ici deux parties, vous l'avez remarqué. La fin du chapitre 15 et le début du chapitre 16, si vous voulez. Hein, ces deux parties qui nous parlent, la première, je l'intitulerai « Jésus entre dans le tombeau ». Et la deuxième partie, ah ouais, vous êtes logique, c'est juste, hein, « Jésus sort du tombeau ». Exactement. Alors Jésus n'est pas entré vivant dans le tombeau. Et d'ailleurs, il n'est pas entré lui-même dans le tombeau. C'est les hommes qui ont été l'y placer. Alors que Jésus est vivant quand il est hors du tombeau, et ce ne sont pas les hommes qui l'ont sorti du tombeau, c'est Dieu, c'est lui-même. En fait, l'homme met Jésus mort dans le tombeau. L'homme met Jésus mort dans le tombeau, et Dieu sort Jésus vivant du tombeau. Dieu sort Jésus vivant du tombeau. C'est l'articulation qu'on voit aujourd'hui et c'est en même temps un symbole très fort hein, qui nous parle de ces deux éléments que nous allons étudier un peu ce matin ensemble. Alors, pour qu'on soit bien dans le contexte, relisons le texte. Donc, dans Marc 15, on va lire les versets 42 à 47. Je vous encourage à avoir vos Bibles ouvertes et à suivre dans vos Bibles. Le soir était là. Et comme c'était les préparations, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. Jusque-là. Jésus est mort après 15 heures, le soleil se couche à cette époque-là de l'année, vers 19h, début du sabbat. Donc tout s'est passé, des versets 42 à 47, entre après 15h et avant 19h. 4h. Donc Joseph d'Arimathée va chez Pilate et lui demande une audience. Il faut bien se rendre compte que quand Joseph va chez Pilate, il ne va pas dans un restaurant. Il va plutôt, si vous voulez, quelque chose qui nous êtes plus familier, comme chez le médecin, dans le sens qu'il attend dans la salle d'attente qu'il puisse être reçu. Et lorsqu'il arrive devant Pilate, il lui demande la permission de prendre le corps de Jésus, parce qu'en fait, ce n'est que Pilate qui peut donner l'autorisation de prendre ce corps supplicié en croix, qui normalement était laissé à la nourriture de tous les charognards et ensuite balancé dans une fosse commune. Et là, Pilate, il fait appeler son centurion, parce qu'il veut savoir si Jésus est vraiment mort. Hein. Et il vient se présenter, il atteste de la mort de Jésus, donc ça prend de nouveau du temps, hein, le centurion qui arrive, etc. Et une fois que c'est fait, il peut parler à Joseph et lui dire qu'il peut prendre le corps. Donc Pilate est d'accord de donner le corps à Joseph d'Arimathée. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il doit faire ? Ben, il doit se retourner sur le lieu de la crucifixion et en passant, il s'arrête au magasin. Parce qu'il achète un linceul pour pouvoir mettre Jésus dedans. Un linceul, vous savez ce que c'est les enfants, un linceul ? Ouais, on n'utilise pas beaucoup ce genre de langage. Hein. Un linceul, c'est comme, on pourrait dire, un sac en tissu. Comme un sac de couchage en tissu dans lequel on peut mettre une personne. Hein. C'était sûrement en lin d'ailleurs, pour y mettre le corps de Jésus. Et quand Joseph d'Arimathée a acheté ce linceul, il va à la croix et là il descend le corps de Jésus. Peut-être avec l'aide des Romains ou pas, c'est pas dit, nous ne le savons pas. Mais le corps sans vie de Jésus est mis dans ce linceul qu'il a acheté. Le corps est transporté jusqu'au tombeau, dans une petite grotte. Et d'ailleurs, ça nous fait penser à... Vous savez, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui avait acheté une grotte pour mettre sa femme qui était décédée. C'est Abraham, exactement, à Macpéla. Eh bien, c'est la même notion, et c'est une grotte du même style, hein, où en fait, le corps de Jésus allait être mis. Et Joseph d'Arimathée place le corps dans le tombeau, et afin d'empêcher tout animal de venir, hein, parce que c'est un corps mort, il met une grosse pierre pour qu'il ne puisse pas entrer. Et là, il doit être pas loin de 19h. Le soleil se couche, tout le monde rentre chez soi. Je vous ai donné les détails en lien avec ce qui est dans Marc. Évidemment, les autres évangiles nous donnent d'autres détails que je n'ai pas pris ici, puisqu'on se concentre sur Marc. Le fait que Jésus soit mis dans le tombeau juste avant le sabbat est aussi quelque chose de symbolique. En fait, Jésus a accompli son œuvre. Il a fait ses 6 jours de travail, si vous voulez. Elle est terminée maintenant, cette œuvre. Et il entre dans le repos du sabbat qui vient après le travail. On pourrait développer encore cette symbolique. Je ne vais pas le faire ce matin, mais je vous donne déjà ici une piste. Et nous avons souligné que c'est un Jésus mort qui est placé dans la tombe. Ça, c'est un élément fondamental. Il doit être mort pour avoir payé aussi nos péchés, pour pouvoir ensuite ressusciter. Est-ce que vous avez remarqué que la mort de Jésus a été officiellement déclarée ? C'est quand même beau comme Dieu a conduit tout ça, c'est très clair. Hein ? Pilate, l'organe compétent, demande à un centenier habitué à vérifier si quelqu'un était mort, qui avait d'ailleurs intérêt à ne pas se tromper, parce que il pouvait en aller de sa vie s'il se trompait, hein, donc il a intérêt à ne pas se tromper, eh bien, d'indiquer qu'il était mort. Et puis, actuellement, on pourrait dire que c'est comme un médecin qui rédige un certificat de décès. Le certificat de décès de Jésus a été écrit, c'est clair, pour qu'il puisse être transmis ensuite à Joseph d'Arimathée. Donc, au niveau légal, Jésus est déclaré mort. Au niveau légal, Jésus est déclaré mort par Pilate. Après vérification, on pourrait dire qu'il a son certificat de décès. Vous avez peut-être aussi remarqué dans cette histoire, dans ce récit véridique, que le corps de Jésus a été descendu de la croix. Il était sur la croix, il a fallu le descendre. Donc il a fallu le prendre, il a fallu le poser par terre, le mettre dans le linceul. Il a fallu le toucher, le déplacer, le trimballer, comme on dit. Et Joseph et ceux qui étaient avec lui, en fait, ont pu observer ce corps, ont pu sentir s'il avait encore le pouls. Ils ont pu remarquer s'il respirait encore. Ils ont pu aussi se rendre compte, avec toutes les cicatrices ouvertes, qu'à chaque fois qu'il touchait à des endroits qui pouvaient donner des douleurs, s'il y avait des réactions. Et même en regardant ses pupilles, ils ont pu vérifier si elles se dilataient ou se rétrécissaient à la lumière. Et les femmes présentes étaient témoins de tout cela. En fait, au niveau personnel et expérimental, Jésus est considéré comme mort. C'est quelque chose d'effectif, quelque chose qui a pu être vérifié par ces personnes-là. Parce que Joseph va le mettre dans un linceul et l'a porté dans un tombeau. Il ne l'a pas amené à l'hôpital. Il était mort. Donc au niveau personnel et expérimental, Jésus est considéré comme mort, car Joseph le met dans un linceul et dans un tombeau. Jésus entre donc dans ce tombeau, mort. Aucune vie n'est en lui. Le décès est indiscutable, et ce sont les hommes qui le mettent dans le tombeau. Il n'y va pas lui-même. Nous en parlerons quelques instants plus tard, mais c'est un élément important, cette notion, puisque certains contestent la résurrection en disant qu'il n'était pas mort. J'espère, en tout cas pour tous ceux qui l'entendent aujourd'hui, que ce n'est pas possible d'amener ce genre de raisonnement. Mais comment réfléchir à notre vie par rapport à ce tombeau ? Ce tombeau, j'ai un peu réfléchi, puis je me disais, mais dans notre vie spirituelle, nous avons tous, quelque part, de façon symbolique, un tombeau. Et la question est de savoir quelle mort y est placée. Qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Bon, je redis quand même l'idée, puis je vous l'explique. Donc, dans notre vie spirituelle, nous avons comme, de façon symbolique, un tombeau, et la question de savoir est quelle mort y est placée. Alors, d'un côté, est-ce que nous avons constaté la mort de notre vie dans la chair ? De notre vie dirigée uniquement par nos propres forces, notre volonté, notre moi tout-puissant qui veut tout contrôler, que le monde fasse comme je veux. Ceux qui sont autour de nous ont-ils pu constater que ce moi, avec son pouls de l'orgueil, sa respiration de l'égoïsme, sa pupille de l'incrédulité, sont morts et mis dans la tombe ? Non pas que l'orgueil et l'égoïsme n'existent plus, mais ce n'est généralement plus le moteur de la vie. Commencez à vous rendre compte, là, le lien, hein ? Nous sommes morts avec Christ. Est-ce qu'en fait, dans ce tombeau, nous avons aussi ce moi qui est mort ? Ou bien est-ce que c'est Jésus-Christ qui est inexistant dans notre vie ? Sa respiration bienveillante, le battement de cœur de son amour, la pupille de sa grâce manifestent-ils leur absence qui indique que c'est lui qui est mort dans notre tombeau ? Quelle mort est placée dans notre tombeau ? Est-ce nous-mêmes ? Est-ce vous-même ? Ou est-ce Jésus-Christ ? Nous comprenons bien que celui qui n'est pas dans le tombeau est celui qui règne sur nous. Est-ce moi ou est-ce Jésus-Christ ? Nous comprenons bien que celui qui est dans le tombeau ne pourra rien faire pour nous, particulièrement face à la juste colère qui pèse sur nous et qui a été la raison de la mort de Jésus, qui a pris sur lui le juste jugement de tous ceux qui se tournent vers lui. Donc qui va faire face au jugement ? Moi ? Ou Jésus ? Qui est dans le tombeau ? Mais en l'an 30, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Donc passons à la deuxième partie et relisons les versets 1 à 8 du chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes. Mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Dans cette deuxième partie, il y aurait tellement de choses à dire. Mais nous allons nous arrêter particulièrement sur trois paroles prononcées qui vont attirer notre attention aujourd'hui.
Et la première parole que j'aimerais souligner, ce sont les femmes qui se rendent au tombeau dès que possible après le sabbat. Et quelque part, elles nous représentent bien avec cette question significative qu'elles ont. Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Qui? En fait, les femmes n'avaient aucune chance de rouler cette pierre. C'est une pierre qui avait été roulée devant le tombeau. Généralement, on faisait une petite pente en déclin. Comme ça, bon, on roule la pierre, puis en principe, on la roule plus dans l'autre sens. À part s'il y a un autre défunt, voilà, on prend quelques personnes qui ont des forces, qui vont le rouvrir, etc. Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Une question qui travaille ces dames. Et en fait, dans nos vies, il en est de même. Qui roulera la pierre ouvrant la voie à la compréhension du salut? Qui roulera la pierre pour nos vies? Pour notre chemin de foi? Ou simplement pour une prochaine étape de vie, pour la comprendre? Qui roulera la pierre? Qui roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Vous avez vu la suite? Elles levèrent les yeux. C'est magnifique, ça. Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles levèrent les yeux. En fait, c'est la même action que ceux qui, dans le désert, avaient été mordus par des serpents, devaient faire pour être délivrés de la morsure de la mort. Ils devaient lever les yeux vers le serpent d'airain que Moïse avait mis en place. Elles levèrent les yeux, elles virent que la pierre était roulée. N'hésitons jamais à lever les yeux. Il faut comprendre ce que ça veut dire, lever les yeux. Hein. Ce n'est pas juste lever les yeux comme ça. Lever les yeux, c'est les tourner vers Christ. C'est les tourner vers Jésus-Christ. C'est trouver en lui notre espérance. Parce que détourner le regard de Christ, c'est tourner le regard vers nous-mêmes. C'est chercher vers nous-mêmes les solutions. Alors que lever les yeux, c'est chercher notre secours auprès de Dieu. Les femmes arrivent au tombeau, la pierre est roulée, elles entrent dans le tombeau. Elles voient un être angélique et là, elles sont épouvantées.
Ah ben ouais, franchement, ils ne s'attendaient pas à ça.
En fait, généralement, lorsque Dieu se manifeste, lorsqu'il envoie un message angélique, c'est la réaction des hommes. C'est la crainte. En fait, les bergers, lorsqu'ils étaient dans leur champ et que l'ange arrive, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont peur. Pourtant, ils sont gentils, ces anges, hein? Mais c'est la présence d'être qui représente Dieu dans sa sainteté qui les touche. Ils ont de la crainte. On le voit donc avec ces bergers qui annoncent la naissance de Jésus, où les disciples sont terrorisés quand Jésus est transfiguré. Ils sont dans une situation de terreur. C'est pas « Ouah, génial, on est dans la présence de Dieu !» C'est terrifié parce que c'est la sainteté du Dieu qui manifeste mon péché. C'est la réaction habituelle de l'homme lorsqu'il se trouve face à la sainteté de Dieu. On connaît bien l'histoire dans Ésaïe lorsqu'il est face à Dieu. Ou bien même Pierre, puisque pour rester dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus a permis la pêche miraculeuse, il lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Donc cette réaction de ces femmes ici dans ce tombeau, c'est une réaction habituelle lorsqu'on est face à un messager angélique de Dieu. Et l'ange dit aux femmes ce que Jésus a souvent dit à ses disciples. N'ayez pas peur, ne vous épouvantez pas. L'ange avec les bergers, il a dit la même chose aussi. N'ayez pas peur, ne vous épouvantez pas. Quelle parole merveilleuse et douce à nos oreilles. Dieu n'est pas en train de dire, ne venez pas. Il sait qu'on aura de la crainte lorsqu'il se manifestera. Et il va nous dire, ne crains pas, ne t'épouvante pas. Et nous savons pourquoi maintenant. Parce que Christ nous a donné ce chemin pour aller auprès de lui. Ne crains pas. Donc la première parole que je voulais souligner, c'était cette parole. Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau ? La deuxième, elle nous donne la raison principale pour ne pas être épouvanté. C'est une parole des anges qui dit « Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Il est ressuscité, il n'est pas ici. C'est la deuxième parole sur laquelle on s'arrête. Jésus n'a eu besoin d'aucune aide humaine pour sortir du tombeau. D'ailleurs, même ceux qui ont voulu le retenir à l'intérieur, il y avait des gardes, c'était scellé, enfin, etc., n'ont pas pu le retenir. Rien n'a pu résister, même pas la pierre qui était devant. En fait, c'est le message du christianisme qui est résumé en trois mots. Vous savez les trois mots qui résument le christianisme ? Il est ressuscité. Ou bien Jésus est ressuscité. Ça, c'est les trois mots qui résument le christianisme, en fait. Jésus avait annoncé sa résurrection. D'ailleurs, ses ennemis étaient tellement attentifs à ce qu'il disait que eux, ils ont mis des gardes, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'il ne puisse pas ressusciter. Il l'avait donc annoncé, c'était clair. Et non seulement il l'a annoncé, mais il est ressuscité. Il n'existe aucune religion dans le monde où un homme qui d'ailleurs se prétend être Dieu, ou est Dieu, hein, Jésus est Dieu, annonce qu'il va mourir et qu'il va ressusciter et que cela se passe et que c'est même attesté historiquement. Il n'y a rien d'autre dans le monde, rien. C'est le seul. C'est pour ça que ces trois mots, en fait, c'est le résumé du christianisme. Il est ressuscité. Et voilà pourquoi aussi la résurrection de Jésus-Christ a régulièrement été mise en doute. Parce qu'en mettant en doute la résurrection de Christ, c'est toute notre foi que l'on met en doute. Alors, je ne peux pas faire la grande explication apologétique par rapport à la résurrection maintenant. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et chaque année, depuis quelques années, on met des panneaux dehors à Pâques. Vous avez sept questions-réponses d'un détective de Pâques. Ça vous dit quelque chose, ça ? Alors, je vais simplement prendre ces questions et ces réponses. Comme ça, on a quand même un petit peu une idée. Hein, mais je ne vais pas développer tous les éléments. Et voici la première question que le détective se pose. Les écrits qui nous sont parvenus, donc qui nous disent que Jésus est ressuscité, ce que je viens de lire là, sont-ils fiables ? Et la réponse, comme j'ai dit, je ne vais pas le développer maintenant, ça me démange un peu, mais je donne juste la réponse. Les écrits qui nous parlent de la résurrection sont fiables. C'est d'ailleurs les écrits les plus fiables que nous avons de l'histoire. Bon, il y aura un ACD dans l'avenir qui pourra vous aider. Donc, c'est de la pub. Deuxième élément, y a-t-il des témoins ? Parce que pour qu'une résurrection soit vraie, il faut qu'il y ait des témoins. Alors, y a-t-il des témoins ? Eh bien, il y a de nombreux témoins de la résurrection. Troisième question, les témoins se seraient-ils trompés de tombeau ? Se seraient-ils trompés d'adresse ? Eh bien, non, les témoins ne se sont pas trompés. Le corps de Jésus a vraiment disparu. D'ailleurs, c'était le seul tombeau... Non, je suis déjà en train de donner les arguments. C'était le seul tombeau, c'était scellé. Il y a tellement de choses que Dieu a mis en place pour que ce soit impossible, en fait, de se tromper de tombeau. Il y a eu des témoins, enfin, etc. Bon, quatrième élément, les témoins ont tous rêvé. Ils ont halluciné, quoi. Eh bien non, les témoins n'ont pas rêvé. Ils ont réellement vu Jésus ressuscité. Cinquième élément, le corps de Jésus a-t-il été volé ? Alors c'est vrai que le tombeau était vide, hein, ça c'est vrai, mais le corps de Jésus n'a pas été volé. Je brûle de vous expliquer tout ça, mais voilà, ce sera peut-être des discussions qu'on peut avoir tout à l'heure. Mais je donne des affirmations, c'est très clair, on peut expliquer tout ça. Jésus était-il vraiment mort ? Bon, ça, on a vu quand même ce matin plusieurs éléments qui nous permettent de nous en rendre compte. Il y a même un certificat médical attesté par l'autorité, la plus haute autorité de l'époque. Hein. Jésus était réellement mort. Et septième question de notre détective de Pâques, Que change la résurrection de Jésus ? Que change la résurrection de Jésus ? Eh bien, si Jésus est ressuscité, le christianisme est donc vrai. Et le pardon de Dieu est offert à tous ceux qui le reçoivent. Donc, que change la résurrection de Jésus ? Eh bien, si Jésus est ressuscité, le christianisme est donc vrai. Le pardon de Dieu est offert à tous ceux qui le reçoivent. Et c'est pour ça que la croix qui est à côté de moi est vide. Il est ressuscité. Ça, c'est ce que les anges ont dit à ces dames qui sont arrivées dans le tombeau. Il est ressuscité. Il n'est pas ici, dans le sens qu'il n'est plus dans ce tombeau de mort. C'est le message fondamental de tout chrétien face au tombeau de Jésus-Christ. Si la résurrection physique est claire et s'est passée, que vous le croyez ou non, hein, que vous le croyez ou non, c'est un fait. Vous croyez que le soleil brille dehors ? Non, c'est pas grave, il brille quand même. Jésus est ressuscité, que vous le croyez ou non. Donc ça, c'est la résurrection physique de Jésus. Et il existe aussi une résurrection spirituelle, qui est symbolique, celle-là. Jésus est-il ressuscité en vous ? Avant, on avait parlé de cette histoire de tombeau en nous, hein, qui est dans le tombeau, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est nous ? Mais si nous sommes dans le tombeau, alors qui vit en nous ? Est-ce que Jésus est ressuscité en vous ? Qu'est-ce qui démontre que Jésus est ressuscité en vous, en nous ? Est-ce que nous pouvons dire ces paroles de Paul dans Romains 6 ? Ça, vous avez déjà... Ceux qui ont un petit peu des antennes hein, l'ont déjà dans la tête depuis quelque temps, puisque j'ai déjà fait quelques allusions. Est-ce que vous pouvez dire ceci ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça, c'est la question. Celui qui peut dire cela de manière claire et qui peut le démontrer dans sa vie est en Christ. Il est sauvé. Il est chrétien. Il est un membre du troupeau, enfin, etc. La première parole, donc, c'était cette notion « qui enlèvera cette pierre ». Deuxième parole, « il est ressuscité ». Et la troisième parole que j'aimerais regarder avec vous, donc on revient dans Marc 16, c'est à la fin de ce que les anges disent. Ils disent « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Ça, je trouve fabuleux. Pourquoi il a juste dit « et à Pierre » Il aurait pu dire « à Jacques, et à André, et à tous mes potes, en fait, et à tout le monde, et à Pilate, et à... » Enfin, je ne sais pas, on pourrait dire... voilà. Non, mais ici, c'est quand même assez précis. « Allez dire à ses disciples et à Pierre. » Mais Pierre, il y a juste 3 jours là, il a renié Jésus. Et il n'a pas pu parler à Jésus de ce qui s'est passé. Il est encore dans la situation où il avait sûrement honte et il se demandait si Jésus allait encore l'accepter, s'il pouvait encore venir vers lui. Il l'avait trahi de manière assez grossière quand même. Et la parole par cet être angélique prononcée « et à Pierre » est le message d'une nouvelle extraordinaire pour Pierre, en fait. Jésus ne le rejetait pas. Et même, il précisait qu'il voulait le voir. Dites aux disciples et à Pierre de venir. Il voulait les voir. Quelle preuve d'amour et quel encouragement ce petit ajout « et à Pierre ». Si l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous avez Christ vivant en vous, le « et » à Pierre, en fait, se transforme à « et » à Roland, « et » à Loïc, « et » à Mary, « et » à Olga, et, enfin, je ne vais pas faire tous les noms. Quelle grâce! Dites à ses disciples « et » à Pierre de venir. Plaçons notre confiance en celui qui connaît, qui nous connaît par notre nom. Qui roulera la pierre ? que nos craintes face à ce qui devrait encore être transformé en nous, face à l'avenir, nous poussent à élever les yeux, vous vous souvenez ? À lever les yeux. Jésus est ressuscité. Jésus, je veux qu'il vive dans ma vie. Vit-il dans la vôtre ? Est-il visible ? Et allez dire à ses disciples et à Pierre, quelqu'un ici a-t-il peur parce qu'il a péché ? Quelqu'un a-t-il peur parce qu'il se dit, mais Jésus, il ne peut plus m'accepter. Ça fait tellement de fois, c'était tellement gros, c'était tellement grotesque. Rappelez-vous à ce moment-là, et à Pierre, qui est une invitation de toujours revenir à Jésus-Christ. Nous avons vu ce matin la mise au tombeau, une action humaine. L'humain ne peut que constater la mort, il ne peut pas donner la vie. Cette mise au tombeau nous fait réfléchir à ce qui est mort en nous. Est-ce que c'est notre ego, notre moi, ou est-ce que c'est Jésus qui est mis au tombeau là, dans ma vie ? Et nous avons aussi constaté que le tombeau vide est entouré de paroles qui nous poussent à lever les yeux, à nous réjouir de la vie de Christ qui se manifeste dans la vie du croyant et à toujours être rassuré parce que Jésus appelle à revenir à lui. Il connaît ton nom. Le livre de Marc se termine au verset 8. C'est la fin. On a fini. Bon, dans vos Bibles, il y a encore des versets. Donc, je vais encore faire une prédication. Donc, la prochaine fois, nous allons voir pourquoi Marc se termine au verset 8. Et que faire avec les versets 9 à 20 ? Nous verrons cela la prochaine fois. Mais rappelons-nous aujourd'hui que Jésus a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité, il est vivant, et celui qui est en Christ vit de sa vie. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ta parole est tellement riche qu'on a l'impression de l'avoir effleurée. Et en même temps, nous te remercions pour ces cadeaux, ces pépites, ces éléments si précieux que nous avons pu voir ce matin. Cela, Seigneur, m'encourage à sonder mon cœur, à voir si c'est toi ou moi qui es dans le tombeau. Mais cela me pousse aussi à ne jamais hésiter à lever les yeux vers toi. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir ce chemin qui nous est ouvert, ce voile qui a été déchiré, comme nous l'avons vu la dernière fois, afin que nous puissions nous approcher de toi. Ô Seigneur notre Dieu, nous te louons pour cela. Nous te remercions parce que cette affirmation de la résurrection est si extraordinaire. Elle est unique. Seigneur, j'aimerais te prier que nous en soyons fiers. Non pas parce que nous, on est mieux, pas du tout. Parce que toi, tu es mieux. Parce que toi, tu es celui qui a annoncé ta mort, qui a annoncé la résurrection, qui est venu sur cette terre, qui l'a vécu et qui même nous annonce que nous ressusciterons aussi en toi. Oh, quelle grâce! Merci parce que tu nous connais chacun par notre nom et tu veux nous faire progresser dans la foi. Sois loué et sois béni. Permets que cette résurrection puisse tourner aussi dans nos têtes durant cette semaine et nous dire oui, je veux vivre cette résurrection. Je veux la vivre, je veux que Christ vive en moi. C'est ma prière, que ce soit la prière pour chacun, Seigneur, en implorant ta grâce pour nos faiblesses encore. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.neuchâtel.org. www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.